Alors que dans ce monde, il y a tant d'âmes dans la détresse, tant d'âmes qui sont sans refuge, sans feu ni lieu, ou qui doivent vivre presque sous terre à cause des bombardements. Dans un tel monde, tu nous donnes encore la grâce, dans ce pays, de nous réunir en toute liberté pour nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole. Nous voulons te dire notre reconnaissance et te demander que tu nous donnes vraiment des cœurs sensibles à ces bienfaits et que ces cœurs étant ouverts à la bénédiction que tu voudrais nous accorder aux uns et aux autres, selon nos besoins personnels, que nos cœurs ouverts à ta bénédiction puissent vraiment la recevoir entièrement, et que nous soyons de ces âmes qui peuvent dire notre coupe déborde. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez tous le thème de cette retraite Mahanaïm. Les caractères de la vraie foi. C'est le sujet qui va nous occuper. Et ce soir, en vous souhaitant à tous individuellement la bienvenue dans ce lieu, dans cette maison, je voudrais tout de suite souligner l'importance de ce sujet que nous allons étudier au cours de ces journées que le Seigneur nous donne. Nous n'allons pas méditer les Écritures pour augmenter nos connaissances spirituelles ou intellectuelles, mais nous allons apprendre ensemble ou nous rappeler ce que nous dit la parole de Dieu sur ce thème, les caractères de la vraie foi, afin de mieux vivre l'enseignement des Écritures dans notre vie quotidienne, parce que c'est de cela qu'il est question. Non pas sortir d'ici avec des grosses têtes, hein, parce que nous avons compris certaines vérités, mais nous voudrions sortir d'ici avec un cœur rempli des vérités que le Saint-Esprit nous aura révélées, et nous savons que du cœur sortent les issues de la vie, et nous croyons que ces vérités, si nous les avons reçues dans notre cœur et pas seulement emmagasinées dans notre intelligence, si nous les avons reçues dans notre cœur, eh bien, elles seront expédiées dans tous nos membres, et ces vérités influenceront notre manière de marcher dans ce monde, parce que ça ira juste dans nos pieds, notre manière d'agir, ça ira aussi dans nos mains, notre manière de regarder, d'écouter, de parler et d'aimer. Les vérités, quand nous les recevons dans notre cœur, eh bien, elles ont une influence dans notre vie pratique. De sorte que cette retraite, nous demandons au Seigneur qu'elle vous serve dans les jours à venir, dans ce mois de février que nous venons d'entamer et dans les semaines qui viendront. Je lirai ce soir, pour ouvrir cette rencontre, trois textes qui montrent l'importance de notre sujet. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux, dont l'auteur est anonyme. Certains pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres Barnabas, peu importe l'auteur, nous croyons que c'est un écrit inspiré du Seigneur, et nous lisons au chapitre 11e, au verset 6, cette parole qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ou selon une autre version, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » C'est donc d'une importance capitale de savoir ce qu'est la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, qu'est-ce que ce verset veut dire? Nous ne sommes pas agréables à Dieu. Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous ne plaisons pas au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible d'être agréable à Dieu. On peut peut-être avoir une croyance, mais c'est ce que nous allons voir. Une croyance n'est pas la foi. Caïn avait une croyance. Il croyait en Dieu, mais il n'était pas agréable à Dieu. Il n'a pas plu à Dieu, même avec sa religion. Même quand il est venu à Dieu avec des offrandes, il n'a pas été accepté. Ses offrandes n'ont pas été agréables à Dieu. Donc, Caïn n'avait pas la vraie foi. Les caractères de la vraie foi, ce sera notre sujet. Alors, souvenez-vous bien de ce texte. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est une impossibilité. Faites ce que vous voudrez, vous ne serez pas agréable à Dieu. Bon, premier texte. J'en cite maintenant un second. Avant de revenir encore une fois à l'Épître aux Hébreux pour un troisième, le second, vous allez dans l'Épître aux Éphésiens. C'est certainement un verset que beaucoup connaissent par cœur, mais qui devra agir dans nos consciences au cours de ces journées. C'est au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, au verset 8e, un texte que nous aimons beaucoup, que vous aimez certainement. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc il est bien important de savoir quel est ce moyen qui est appelé la foi, qui nous permet de saisir la grâce. Grâce qui elle-même nous apporte le salut. Et il sera important de voir qu'est-ce que c'est que ce salut, ce si grand salut que Dieu que la grâce il nous offre, nous apporte, mais que nous devons saisir par la foi pour que ce salut devienne réellement nôtre. Donc, c'est le deuxième texte que je vous demande de méditer ce soir même sur vos couches. Enfin, le troisième passage, c'est de nouveau dans l'Épître aux Hébreux. Je vous fais un peu feuilleter vos Bibles, mais c'est un très bon exercice. Vous apprenez que l'Épître aux Hébreux se trouve après l'Épître aux Éphésiens, hein, que l'Épître aux Éphésiens se trouve avant l'Épître aux Hébreux, puis vous commencerez de vous y retrouver dans ce livre. Chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, le verset 38e. Nous lisons dans ce verset « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mon juste, ou le juste, vivra de foi, ou par la foi, ou celui qui est juste à mes yeux, vivra par la foi. Un homme qui est déclaré juste par Dieu, qui ne se trompe pas, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, c'est un homme qui vit par la foi. Donc vous voyez que c'est vaste. Je ne sais pas s'il y a parmi vous de ces gens qui se figurent que ceux qui vivent par la foi, ce doit être seulement les serviteurs de Dieu. Et encore, beaucoup de serviteurs de Dieu ont un salaire. Hein. Mais on dit, eh bien, oui, alors c'est seulement ceux qui ne sont pas salariés qui doivent vivre par la foi. Est-ce qu'il n'y aurait que des serviteurs de Dieu non salariés qui seraient des justes? Non. Le juste vivra par la foi. Que nous soyons salariés ou que nous ne le soyons pas, que nous ayons une occupation dans la vie civile quelconque, quelle que soit notre occupation, nous avons à vivre de foi. Et à vivre par la foi. Non. Nous allons demander à Dieu de nous faire découvrir ce que c'est que vivre par la foi. Qui est-ce qui devrait vivre par la foi, selon ces textes? Tous les justes. Tous ceux qui sont appelés justes. Mais vous me direz, mais vous ne connaissez pas l'Écriture. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Écriture? Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Alors voilà pourquoi on ne vit pas par la foi. Voilà pourquoi il y en a si peu. Non, mes amis. On peut devenir juste. Et nous aurons l'occasion de voir comment l'on devient juste. Mais quand l'on devient juste et que l'on est réellement sauvé, quelle est la vie qui doit nous caractériser quotidiennement? C'est une vie de foi. Et ça, c'est le texte central de l'Ancien Testament. On trouve rarement le mot foi dans l'Ancien Testament, mais ce texte qui est cité ici dans l'Épître aux Hébreux, c'est un texte qui se trouve dans quel prophète? Le prophète Habacuc. Vous n'avez peut-être pas lu ce prophète, hein? Mais il a écrit trois chapitres qui sont des merveilles. Et c'est dans le chapitre 2 du prophète Habacuc qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, si ces trois textes sont valables pour nous en 1983, si cela est vrai, il s'agit donc pour nous, dans ces journées, de savoir ce qu'est cette foi. cette foi qui nous rend agréable à Dieu, cette foi qui nous met en possession de sa grâce et qui nous assure le salut. Quels sont donc les caractères de la véritable foi, de la foi qui sauve? Je dirais ceci, c'est que nous vivons en des jours, et vous serez d'accord avec moi, où la plus grande confusion règne au sujet de la foi véritable, de cette foi qui sauve réellement, de cette foi qui nous permet de plaire à Dieu et d'être conscient, d'avoir une bonne conscience que ce que nous faisons plaît au Seigneur. On a dit que la maladie des chrétiens aujourd'hui, c'était la mauvaise conscience. Mais quand on a une bonne conscience, eh bien, on peut penser que l'on plaît au Seigneur. Ou si nous plaisons au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous donne? Une bonne conscience. Une bonne conscience. Mais il y a la plus grande confusion aujourd'hui au sujet de ce qu'est cette foi qui nous permet de plaire à Dieu, et qui nous sauve réellement, et dans laquelle le croyant est appelé à vivre chaque jour de son existence. Cette foi qui nous donne accès à la grâce, cette foi qui nous revêt vraiment de la justice, non pas d'une justice qui viendrait de l'observation de la loi, mais de la justice qui nous vient de la foi en Christ, qui est la justice de Dieu, de cette foi qui purifie nos cœurs, de cette foi qui nous sanctifie, de cette foi qui nous fait marcher dans ce monde, parce qu'il est question d'une marche de la foi, de cette foi qui nous donne la paix alors que tout est troublé, de cette foi qui nous donne la joie alors qu'il y a pour nous tant de sujets de tristesse, et de cette foi qui, comme je le souhaitais tout à l'heure, nous conduit vraiment à ce que Paul appelle la plénitude de la foi. Il y a une plénitude de foi qui nous est proposée, et nous voudrions entrer dans cette plénitude. Mais dans ce monde, disions-nous, règne la plus grande confusion au sujet de la foi. On entend par exemple, et c'est pas rare à Montréal, parler de la foi juive. Vous avez déjà entendu parler de la foi juive, hein? Et vous savez ce qu'est la foi juive. J'ai reçu hier encore une lettre de Jérusalem, et je pourrais vous parler de la foi juive. La foi juive dont nous trouvons l'essentiel dans quel livre? Dans l'Ancien Testament, hein, dans la Torah, c'est l'Ancien Testament. Mais à cet Ancien Testament, on a ajouté tous les commandements d'hommes que nous trouvons dans le Talmud et toutes sortes d'idées qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Kabbale. De sorte que la foi juive, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais on a ajouté beaucoup de commandements qui sont des commandements d'hommes, comme le disait déjà Jésus en son temps. Mais donc, on nous parle de la foi juive. On nous parle aussi beaucoup, et c'est vraiment même assez inquiétant quelquefois, de la foi musulmane. On nous dit qu'en France, maintenant, il y a plus de musulmans que de catholiques déjà. Alors, c'est quelque chose, hein. Et il y aura bientôt peut-être plus de mosquées en France, parce qu'on est en train d'en construire à cause des besoins, qu'il n'y a d'église. Les églises se ferment. J'ai reçu une lettre de Nice avant-hier du doyen de la faculté des lettres, qui est un chrétien authentique, qui me dit: nous n'avons, pour ainsi dire, plus personne dans nos églises officielles protestantes. mais on cherche de la place pour réunir les musulmans, en France même. C'est peut-être un moyen d'évangélisation. Si on ne peut plus aller en Algérie évangéliser, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou dans ces autres pays où j'allais en 1953 et où on pouvait encore évangéliser, eh bien voilà que ces musulmans viennent dans nos pays. Alors, si nos pays nous donnent encore certaines libertés, peut-être que ce sera le moyen d'atteindre ces musulmans qui ne pouvaient plus être atteints ou qui ne pouvaient pas être atteints dans leur pays. Même ces histoires d'Afghanistan, c'était absolument effroyable de penser la Russie envahit l'Afghanistan. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que beaucoup de ces gens d'Afghanistan qui ont dû fuir à cause d'invasion russe sont allés où? Au Pakistan, où là, il y avait encore la possibilité d'annoncer l'évangile, et il y a beaucoup de conversions de musulmans qui venaient de l'Afghanistan, qui se convertissent, maintenant qui sont dans un autre territoire. De sorte que, malgré tous ces bouleversements que vous voyez aujourd'hui sur la terre, qui est-ce qui a la haute main au-dessus de tout? C'est le Seigneur. Mais ça, ça se dit pas, ça se dit pas dans les médias d'information. On vous montre toujours autre chose. Mais enfin, on pourrait parler de la foi musulmane, et c'est une réalité, cette foi musulmane. J'aurais pu vous apporter des photographies où l'on voit sur l'esplanade du temple d'autrefois à Jérusalem, la foule prosternée, le front sur la pierre, hein, et c'est vraiment un immense champ de créatures où tout le monde est là prosterné. Vous savez que l'ancien président d'Égypte, qui est mort, avait même une marque, comment s'appelait-il? Sadat, hein, Anwar el-Sadat. Il avait une marque au front qui venait d'où? De sa façon de se prosterner et de mettre sa tête par terre quand il priait. Nous avons des marques sur les genoux, nous? Peut-être. Peut-être. Voilà. On peut parler d'une foi, donc, musulmane, et nous trouvons le contenu de cette foi dans quel livre? Le Coran. Je ne vais pas vous parler du Coran, mais enfin, chaque religion a son livre. Alors, les Juifs ont la Bible, les musulmans ont le Coran, puis aujourd'hui, et beaucoup de gens baptisés s'intéresse à cela, on parle beaucoup de la foi hindoue que nous trouvons dans les Védas, les livres de la religion de l'Inde. Puis alors, évidemment, on vous parle de la foi chrétienne. Mais il y a une chose, dès qu'on parle de la foi chrétienne, voilà qu'on la divise. Et c'est ça qui est assez tragique. La foi chrétienne, ben, il n'y a qu'une seule foi, semble-t-il, la foi chrétienne. Mais aussitôt, on dit, ah oui, mais il y a la foi catholique. La foi catholique. Alors, la foi catholique, bon, c'est la foi chrétienne, mais c'est une foi qui recouvre l'enseignement de l'Église romaine. Alors, cet enseignement est composé de quoi? De l'Écriture, que nous avons en commun, mais aussi de la tradition. L'écriture et la tradition forment ce qu'on appelle la foi catholique. Puis on nous parle aussi de la foi orthodoxe. Est-ce que vous connaissez dans vos relations des orthodoxes? Il y en a à Montréal, hein? Et il y en a dans le monde entier. Et cette foi orthodoxe qui contient les dogmes de l'Église d'Orient, de cette Église qui s'est séparée en 1054 de l'Église de Rome. Mais elle existe toujours. Et on l'appelle l'Église orthodoxe grecque, n'est-ce pas? Mais elle est aussi en Russie, elle est dans beaucoup de pays. On la connaît peut-être moins, mais il y a des choses aussi qui sont très intéressantes dans l'Église orthodoxe. Puis, après la foi catholique, la foi orthodoxe, de quoi parlons-nous? De la foi protestante. Alors oui, la foi protestante ou réformée. Et cette foi protestante, elle date de quand? Du XVIe siècle. De ce temps des réformateurs. Mais aussitôt que l'on parle de foi protestante, voilà de nouveau qu'on subdivise cette foi protestante. C'est d'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Tout de suite, on nous dit, oui, mais la foi protestante, bon, les réformateurs, on est d'accord, c'était d'anciens catholiques, parce que tous les réformateurs étaient d'anciens catholiques. Hein. La réforme est venue par qui? Par des catholiques, qui demandaient un retour aux sources. Luther était un moine. Alors voilà, j'ai nommé quelqu'un, alors il est question, quand on parle de foi protestante, de la foi luthérienne. De la foi luthérienne. Luther est né en quelle année? Je vais le savoir quand même, hein. Mais écoutez, l'année passée, c'était le 500e anniversaire de la naissance de Luther. Alors il est né quand? En 1483, hein. Toute l'année, on a parlé de Luther. Il y a des thèmes sur les... Si vous recevez une lettre de France ou d'ailleurs même, il y avait Luther, la figure de Luther. Hein? Le réformateur allemand, 1483 jusqu'à 1456. Et les principes de l'Église luthérienne ont été consignés dans un livre qu'on appelle Concorde, et qui apparut après la mort de Luther, mais qui résumait au fond tout l'enseignement du réformateur, en 1577. Et alors on a célébré, dans ce que d'autres ont appelé l'année de la rédemption, année sainte, on a célébré l'anniversaire de la naissance de Luther, et on a beaucoup parlé de la foi luthérienne. Qui est une foi chrétienne. Mais il y a encore la foi calviniste, la foi de Jean Calvin, le réformateur français. Luther, c'était le réformateur allemand, le réformateur français, né à Noyon, et qui a vécu de 1509 à 1564, dans quelle ville en particulier? Une ville de mon pays, de naissance, oui, Genève, ce qu'on a appelé la Rome protestante. Alors là, il y avait Calvin qui avait quitté la France à cause des persécutions et qui a consigné au fond toute sa doctrine dans ce qu'on a appelé les institutions, l'institution chrétienne que vous pouvez encore avoir en 4 volumes, et qui a été publié la première fois en 1536. Alors là, vous avez la foi donc calviniste, qui est une foi donc réformée. Mais il ne faut pas oublier la foi, j'en ai oublié une, hein, semble-t-il, la foi anglicane. Hein. Il y a des anglicans, il y a des églises anglicanes, hein, aussi au Canada. Et cette église anglicane était née de la rupture du roi Henri VIII avec Rome au XVIe siècle. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait divorcer avec le pape, il a refusé son divorce. Comme il n'avait pas d'enfant avec sa femme, il a voulu une autre femme pour avoir des enfants, et ça a été le divorce, et ça a été la première cause de la séparation de l'Église d'Angleterre. Et les doctrines de cette Église anglicane sont en quelque sorte à mi-chemin entre la doctrine romaine, qu'ils ont gardée en grande partie, la doctrine catholique, et puis la doctrine calviniste. Alors, vous avez là, dans la doctrine anglicane, dans la foi anglicane, cette doctrine intermédiaire. C'est un mélange de catholicisme et de protestantisme. Et puis, il y aura encore toutes sortes de nuances dans l'Église anglicane. Puis, après tout cela, de quoi pouvons-nous parler? Alors, vous attendiez cela, je pense. La foi évangélique. Nous, nous sommes de foi évangélique. Vous croyez qu'il n'y a pas eu, au travers des âges, des catholiques qui avaient aussi une foi évangélique, individuellement, ou des protestants des églises officielles qui ont eu une foi évangélique? Est-ce que nous avons le droit de dire que nous sommes les seuls qui avons la foi évangélique? Attention, attention, hein, parce que nous aurons peut-être des surprises. Mais alors, cette foi évangélique, qui est-ce qui s'en réclame? Ben, c'est spécialement les mouvements et les églises qui sont nées au 18e, au 19e, au 20e siècle, sans parler déjà des anabaptistes, qui étaient déjà là au 16e siècle et qui étaient aussi des évangéliques. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui évangélique, c'est surtout ces milieux, ces mouvements qui sont nés au 18e, 19e et 20e siècle, des divers réveils religieux. Alors on peut se poser une question maintenant. Je ne m'en vais pas m'étendre sur les différents groupes évangéliques qui disent « c'est nous qui avons la vraie foi ». Mais je poserai simplement cette question. Laquelle de ces fois est bonne? Laquelle procure à l'homme le salut? Que nous dit l'Écriture? Chapitre 4, parce qu'on va toujours revenir à l'Écriture, parce que vous savez, les idées, elles ne valent rien. Je voudrais que vous soyez fondés sur les Écritures et que vous partiez d'ici, non pas avec les convictions d'un prédicateur quelconque, mais que vous partiez d'ici avec les convictions que vous donne l'Écriture, la parole de Dieu. De sorte que si vous n'êtes pas d'accord, vous ne serez pas d'accord, non pas avec moi, mais avec l'Écriture auquel le Seigneur Jésus a rendu un témoignage entier. Que dit l'Écriture? Au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, voilà, les Éphésiens, de nouveau, vous allez feuilleter vos Bibles, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore beaucoup l'habitude de la Bible. On m'a dit qu'il y avait un nouveau-né parmi nous. Je ne sais pas s'il a trouvé son petit berceau, mais j'espère qu'il aura de bons biberons pendant cette fin de semaine, n'est-ce pas? Et qu'il sera nourri du pur lait intellectuel, une bonne nourriture, appropriée à son état de nouveau-né dans la foi. Et puis, les plus âgés, j'espère que vous aurez de la viande, hein? Parce qu'on n'est pas toujours au lait, mais quand on est avec le Seigneur, eh bien, il a toute la nourriture qui est nécessaire à notre état et à notre condition pour nous faire prospérer et pour nous faire grandir ensemble. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 5, vous lisez, je dirais déjà depuis le verset 4 pour laisser le verset dans son contexte. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a une dizaine de fois. C'est votre traduction révisée? Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en nous tous. Eh bien, soulignez cela, il y a une seule foi.
Ça, c'est une affirmation. Il y a une seule foi, donc ça sera la foi qui sauve, certainement. Mais en même temps, et c'est pour cela que nous aurons l'occasion de voir les différents sens calmo-foi un peu plus loin, dans le même chapitre, il est dit au verset 11e que le Seigneur a donné des hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Les saints qui sont dans les niches, il n'y en a plus ici. Pas de niche, vous ne pouvez pas les trouver. Alors le perfectionnement des saints qui sont où? Sur les chaises. C'est vous qui êtes les saints. Vous êtes les saints. Vous êtes de ceux que le Seigneur a mis à part. Alors, le Seigneur a donné des dons divers pour le perfectionnement des saints, de ceux qui se rassemblent. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, parce que vous avez un ministère, nous avons tous un ministère, quelle que soit notre occupation. Dans notre occupation, nous avons un témoignage à rendre, qui est en quelque sorte un ministère. Et de l'édification du corps du Christ. Nous sommes plusieurs membres, comme le corps a plusieurs membres, nous sommes ici plusieurs membres, mais le Seigneur veut pourvoir à l'édification de son corps, à l'édification de tous ses membres, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Oh, que le Seigneur nous exauce, et que nous qui pensions peut-être que nous avions telle ou telle foi, eh bien, que ce soit au moins la foi qui sauve, parce qu'il n'y a qu'une seule foi qui sauve, mais qu'ayant cette seule foi qui sauve, nous puissions, par la grâce du Seigneur et par l'enseignement de sa parole, arriver à cette unité de la foi, qui va nous donner un même amour, un même sentiment, une même pensée. Et que nous puissions comprendre que là, le mot foi a peut-être un autre sens que dans la première mention que nous avons faite, c'est que la foi, ce n'est pas simplement l'acte de croire, mais la foi, comme nous allons le voir, désigne souvent l'ensemble des vérités du christianisme. Et bien souvent, ce qui fait la désunion des chrétiens, c'est ce manque de connaissance de ces vérités essentielles. Il y en a qui connaissent très peu, il y en a qui en connaissent davantage, et plus nous avancerons dans la vie chrétienne, plus nous serons occupés de la personne du Seigneur, plus nous arriverons à cette unité de la foi et de la connaissance du Seigneur. Mais pour cela, il faut lire les Écritures. La foi n'est pas simplement cet acte qui nous fait prendre une décision et qui nous amène à croire, mais la foi désigne aussi l'ensemble des vérités du christianisme, et c'est là alors que, apprenant à connaître ces différentes vérités et laissant ces vérités avoir sur nous leur puissance pratique, eh bien, nous arriverons
à marcher de plus en plus d'un même pas et dans le même sentier, et nous manifesterons davantage à ce monde l'unité de notre foi. Et ce monde sera amené à croire réellement qu'il n'y a qu'une seule foi et qui sauve. Alors, pour y voir clair, il nous faut donc d'abord rechercher le sens du mot « foi ». Quel est le sens de ce mot « foi » ? Dans son sens général, la foi, c'est la croyance qui repose sur le témoignage. La foi, dans son sens général, c'est la croyance qui repose sur le témoignage. Avoir foi en quelque chose, c'est adhérer sur le témoignage d'autrui à une vérité que nous ne pouvons pas vérifier nous-mêmes. On nous dit quelque chose, hein, et puis on le croit. Pourquoi ? Parce qu'on fait confiance à la personne qui nous parle. Parce qu'on estime que cette personne a autorité pour nous dire la chose. Alors, on croit ce qu'elle nous dit. Donc, la foi dans son sens général, c'est la croyance qui repose sur le témoignage. Et s'ensuit donc que la foi peut être divine, ou humaine, selon que le témoignage vient de Dieu ou des hommes. Ainsi, je vous cite un verset, chapitre 5 de la première épître de Jean, qui se trouve avant l'Apocalypse, après les épîtres de Pierre. Vous avez là un texte qui illustre la vérité que je viens d'enseigner, c'est que la foi peut être divine ou humaine. Si le témoignage vient de Dieu, ça sera une foi divine. Si le témoignage vient des hommes, ce sera une foi humaine, n'est-ce pas ? Alors, au chapitre 5 de Jean, il est dit au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Alors, ce que nous allons chercher à connaître dans ces journées, c'est le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Et à qui rend-il témoignage ? Mais il a rendu témoignage spécialement à son Fils. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il a la foi. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Si vous croyez au Fils de Dieu, vous avez la foi, la vraie. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. C'est ça l'incrédulité. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc on voit tout de suite que l'objet de la foi, c'est qui ? C'est Dieu et en même temps son Fils, celui à qui il a rendu témoignage. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, c'est le témoignage de Dieu. Donc, notre foi sera une foi divine. Je prends encore un autre texte pour illustrer cette foi divine. Jean, alors ça c'est l'Évangile, vous retournez au commencement du Nouveau Testament, le quatrième Évangile, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au quatrième évangile, chapitre 3, verset 33, vous lisez ceci,
celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils peut espérer? Non. Ah! La vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, je le répète, la foi dans son sens général, c'est la croyance qui repose sur le témoignage. Et si ce témoignage est de Dieu, c'est une foi divine que nous avons. Si le témoignage est humain, c'est une foi humaine. Mais disons encore que le mot foi se rencontre souvent dans la Bible. Surtout dans le Nouveau Testament. Vous savez combien on le trouve de fois dans le Nouveau Testament? Ce mot foi? Vous me direz, ça ne va pas nous avancer beaucoup, non. Mais c'est pour vous montrer l'importance. 255 fois, vous rencontrez le mot foi dans le Nouveau Testament. Sans parler du mot croire, qui exprime ce qu'est la foi. Et le mot croire revient plus de 150 fois dans toute la Bible. Et dans l'Ancien Testament, alors c'est assez surprenant, on ne rencontre que 3 ou 4 fois le mot foi. C'est donc dans le Nouveau Testament que vous trouvez le mot foi. Mais dans l'Ancien Testament, on ne le rencontre que 3 ou 4 fois. Mais ce que représente ce mot a pourtant caractérisé tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Il n'est pas beaucoup parlé de la foi dans l'Ancien Testament. Mais les hommes dont il est question étaient des hommes de foi. La plupart des hommes de l'Ancien Testament ont été caractérisés par leur foi. Et pour nous en convaincre, eh bien, il suffira de lire demain, et c'est la tâche que je vous demanderai demain matin, de lire quel chapitre du Nouveau Testament, pour voir que tous les hommes de l'Ancien Testament, Hébreux chapitre 11, pour nous convaincre que ce qui caractérisait les hommes de l'Ancien Testament, c'était la foi, même s'il n'est pas question de foi souvent dans l'Ancien Testament, bien lisons le chapitre 11 de l'Ancien Testament. Et vous verrez que dans ce seul chapitre, on retrouve 24 fois le mot foi, et dans toute cette épître aux Hébreux, il s'y trouve 34 fois. Et ce mot, disions-nous, est attribué aux hommes des temps passés qui ont été approuvés de Dieu, qui ont été agréables à Dieu. Il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais il y a eu des hommes dans l'Ancien Testament qui sont déclarés, dans le chapitre 11 des Hébreux, avoir été agréables à Dieu. Et ce qui va vous encourager, c'est que ces hommes, c'étaient des hommes comme nous. Des hommes qui avaient les mêmes passions que nous, des hommes qui ont eu beaucoup de fautes, beaucoup de manquements. Mais quand on lit le chapitre 11 des Hébreux, qu'est-ce qui nous est rapporté d'eux? Leur foi. Il n'est plus question de leur manquement. Dieu ne rappelle que leur foi. Et vous verrez que ces hommes dont il est question ont commis de graves fautes. Hein. Mais Dieu ne se souvient plus de leur faute. C'est tonique, c'est encourageant. Et ils ne parlent que de leur foi. Ils soulignent que leur foi. Donc, vous n'allez pas être déprimé demain en lisant, en étudiant la parole. Vous allez recevoir une force et une bénédiction. Alors, dans ce
chapitre 11 de cette épître aux Hébreux, vous verrez qu'il est dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc, un des caractères de la foi, c'est d'être une conviction. La foi, la vraie foi, elle nous donne une conviction. Ce n'est pas une opinion, comme nous le verrons. Mais la foi nous donne une assurance, une conviction. Conviction que ce qu'on espère est vrai. Et alors, cette foi qui est une conviction, qui est une assurance, elle est attribuée à qui dans ce chapitre? Je nomme ça rapidement. Elle est attribuée à Abel. Et elle explique l'excellence de son sacrifice. Ensuite, elle est attribuée à Enoch. Et elle nous explique sa marche. C'est par la foi qu'Abel a offert un plus excellent sacrifice que Caïn. Enoch, s'il a marché avec Dieu, c'est par la foi. Et puis, ensuite, il est parlé de Noé. Et de l'œuvre qu'a accomplie Noé. Et cette œuvre, il l'a faite par la foi. C'est parce qu'il a cru qu'il a travaillé, qu'il a construit une arche. Hein? Parce qu'il avait simplement cru, « Oh, mais je crois ce que Dieu dit, le déluge va venir. Moi, je sais, j'ai la connaissance, le déluge va venir. Alors, j'attends. » Peut-être qu'il aurait inventé un parapluie. Non, non, mais ce n'était pas un parapluie qu'il lui fallait. Dieu lui avait dit, « Construis une arche. » Donc, sa foi allait le mettre à l'œuvre. On va d'abord voir aussi combien les œuvres sont nécessaires. Elles suivent la foi. C'est pas les œuvres qui l'ont sauvé, mais c'est d'avoir cru. Et c'est parce qu'il a cru qu'il a fait une œuvre et qu'il a pu sauver sa femme et ses enfants. Mais c'est à sa foi qu'est attribuée son œuvre. Puis après, il sera parlé d'Abraham. Et c'est à sa foi qu'est attribuée son obéissance. Vous voyez que vous allez vous-même découvrir un peu les vrais caractères de la foi. Les caractères, les traits qui manifestent la foi authentique, une foi qui sauve. Puis après, cette foi est attribuée à Isaac, à Jacob, des gens qui ont eu pas mal de manquements, comme du reste Abraham. Et elle est attribuée aussi à une femme, à Sarah. Il n'est pas dit que Sarah a douté dans le chapitre 11 des Hébreux. Il est dit qu'elle a cru. Et qu'elle a reçu en elle-même, alors qu'elle était vieille, le pouvoir de concevoir. La foi rend possible les choses impossibles. Elle est attribuée à Joseph, qui à la fin de sa vie en Égypte a donné des ordres à ses frères concernant ses os. Il croyait, alors que tout allait bien en Égypte, que le peuple était bien vu par le pharaon de ce temps-là, mais Joseph, avant de mourir, a cru qu'un jour il devrait partir. Il n'a pas regardé à la situation heureuse du pays du moment. Il leur a dit, un jour vous devrez quitter l'Égypte, mais vous n'y laisserez pas mes os. Et il a donné des ordres concernant ses os. Et il a fait ça par la foi. À ce moment-là, plus personne ne pensait quitter l'Égypte. On était tellement bien en Égypte. Eh bien, il sait que ça ne va pas durer toujours. Parce qu'il connaît la parole. Et il a foi en la parole. Et il donne des ordres concernant ses os. Parce qu'il a la foi. Alors, il est parlé de la foi de Joseph. Puis il sera parlé de la foi des parents de Moïse. Moïse,
qui aurait dû être mis à mort. Mais les parents de Moïse, eh bien, ont discerné en Moïse que cet enfant devait vivre. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru que cet enfant devait vivre? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils connaissaient la parole, qu'il y aurait un jour une délivrance de l'Égypte. C'était plus le temps de Joseph. Joseph était mort. Un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph était là, qui régnait sur l'Égypte. Les temps étaient difficiles. Les Israélites étaient devenus des esclaves. Mais parmi ces esclaves, il y avait Amram et Jochebed, un couple qui, malgré l'interdiction d'avoir des enfants, ont quand même un enfant. Ils n'ont pas pris la pilule. Ils ont accepté le risque. Ils ont eu un enfant. Et puis, ils ne l'ont pas exposé. Ils ne l'ont pas fait mourir parce qu'ils savent que c'est Dieu qui fait vivre. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé cet enfant? Parce qu'ils ont cru. Mais un jour, Dieu accomplira sa promesse. Un jour, il suscitera un sauveur. Et ils ont discerné dans leur enfant, c'est peut-être lui. Et ils l'ont conservé. Avec tous les risques possibles. Hein. Et vous connaissez cette merveilleuse histoire. Comment la maman, après 3 mois, le met dans un petit coffret. Elle s'est inspirée certainement de l'arche de Noé. Mais elle l'a fait en plus petit. Mais elle a pris les mêmes matériaux et elle a mis la poix, etc., pour le rendre imperméable de bitume. Et puis, on a confié l'enfant, là, au flot. Ah, ça, c'est la foi. La foi. Qui croit. Et puis, Dieu supervise. Puis, c'est la fille du pharaon qui vient prendre cet enfant. Mais une fois que Moïse est devenu grand, eh bien, c'est aussi à sa foi qu'est attribuée sa conduite, toute sa conduite, comment Moïse, par la foi, refuse d'être appelé fils de la fille du pharaon. Il a une position, il pourrait rester là, il avait toute sa carrière devant lui. Non, il préfère rester dans l'opprobre avec les Israélites, avec son peuple, et il conduit ce peuple à la délivrance. Puis on apprend aussi, là, il y a une seconde femme qui est nommée. Qui ? Rab, parce que pour entrer dans le pays de Canaan, il y avait une forteresse, et cette forteresse qui était une ville, c'était quelle ville? Jéricho, hein. Et puis dans cette ville de Jéricho, il y avait une prostituée, mais c'est cette prostituée qui a été sauvée. Une histoire merveilleuse, que je ne me lasse pas de repasser dans mon cœur, une prostituée qui arrive à sauver qui? Toute sa maison, son père, sa mère. Elle a encore une autorité, cette prostituée. Elle sauve son père, sa mère, ses frères, ses neveux, ses nièces, tout le monde. Et elle arrive à leur parler. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que c'était vrai, que ce peuple délivré d'Égypte devait prendre possession du pays de Canaan, que Dieu était avec ce peuple. Puis elle s'est mise sous sa protection. Voilà ce que c'est la foi. Au risque de sa vie, parce que si elle était prise, hein, on l'aurait dit que c'était une espionne. Puis ensuite, après, donc il y a deux femmes qui sont nommées, donc vous voyez que les femmes ont aussi, sont aussi des femmes de foi. Mais ce qui est frappant, c'est que on pourrait trouver d'autres femmes qu'on aurait pu citer avant Rab, la prostituée, et avant Sarah, la femme d'Abraham, la vieille Sarah, on aurait pu dire qui? Déborah, par exemple, hein? Juge en Israël, non, il n'est pas parlé d'elle. Celle qui a eu un ministère public, il n'en est pas question ici. Pourtant, elle a eu un ministère public. Il est question d'une femme qui habitait sous une tente. La place de la femme, c'est quand même dans le foyer, que ce soit une tente. Ou que ce soit une maison. Rab, c'est aussi une femme qui est dans une maison. Je dis ça seulement en passant. L'Écriture rééquilibre bien les choses. La première place de la femme pour qu'elle ait la plénitude de la foi et qu'elle ait tout son rayonnement, c'est quand même le foyer. Quoi qu'en disent nos chères sœurs féministes. « ces deux femmes qui sont nommées là.
Puis alors, vous avez les juges, dont Gédéon, puis Barak, puis Samson, puis Jephté,
puis des prophètes comme Samuel, plusieurs autres prophètes et autres hommes de Dieu dont les noms ne sont pas mentionnés. Vous allez lire cela, mais que l'on peut reconnaître chez les personnes qui ne sont pas mentionnées à la fin de ce chapitre. Vous pouvez quand même en reconnaître. Il est parlé de leur courage au sein des épreuves, il est parlé d'autres femmes. Et c'est absolument passionnant de lire ce chapitre. Les hommes qui ont fermé la gueule des lions, c'est qui ?
Daniel, vous pouvez le reconnaître, qui ont pu subsister au travers du feu.
Les trois jeunes hébreux, hein. Et puis il y en a d'autres qui ont été sciés, tentés.
Là, alors, c'est peut-être pas la Bible qui nous le dit, mais enfin, la tradition, on sait que Ésaïe, le prophète, sous Manassé, et qui le persécutait, s'était réfugié dans le tronc creux d'un arbre, et Manassé, ce roi impie de Juda, l'a fait scier en deux. Ils ont fait scier l'arbre, puis il était dedans.
Oh, mais vous savez, ça se pratique encore.
Dans les tortures que l'on fait aujourd'hui.
Vous voyez que la torture, il y a longtemps que ça existe.
Eh bien, tous ces hommes ont résisté au temps des Maccabées aussi. Ils ont préféré vivre pour le Seigneur. Et ce courage qu'ils ont eu, cette force, cette puissance, a été attribuée à quoi ?
À la foi.
Alors, nous ne savons pas au-devant de quoi nous allons.
De sorte que je crois que ce sujet est très important, qu'il est capital, et je demande au Seigneur qu'il nous aide à comprendre que si vraiment aujourd'hui nous voulons être de ces justes dont parle l'Ancien Testament dans ce texte central d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra de foi », ce texte qui est repris trois fois dans le Nouveau Testament, eh bien, que le Seigneur nous montre et que nous ne sommes pas réunis simplement pour écouter des messages, mais que nous sommes ensemble pour découvrir ce que le Seigneur attend de nous et en même temps ce que le Seigneur veut nous donner dans ces derniers temps. Parce que quand Habacuc reçoit du Seigneur cette parole, le juste vivra par la foi, c'était quel temps ? C'était un temps où une menace terrible effrayait le royaume de Juda. Les Chaldéens, ce peuple orgueilleux, ce peuple fort, ce peuple impie, allait dévaster le pays de Juda. Et dans le pays de Juda, il y avait quand même des croyants, dont le prophète Habacuc. Et ce prophète voyait que, évidemment, Juda s'était abandonné à l'idolâtrie, à tous les péchés. Et le prophète avait reçu la vision que Dieu allait punir Juda, parce qu'il ne vivait pas les connaissances qu'ils avaient. Ils avaient la parole, ils avaient la loi, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais on se livrait à la débauche, on se livrait à toutes les satisfactions charnelles possibles. Alors, le pauvre Habacuc demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver ? Puis, en regardant ce qui allait envahir ce peuple, ils disaient, mais ils ne sont pas meilleurs que nous. Non, ils n'étaient pas meilleurs. Mais ils étaient moins responsables parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de Juda.
Et Dieu allait employer les Chaldéens pour châtier les péchés de Juda. Alors, le pauvre Habacuc dit au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu laisses ces orgueilleux venir nous châtier ? Et le Seigneur lui montre que
après que les Chaldéens ont rechâtié Juda, les Chaldéens eux-mêmes seraient, à leur tour, châtiés. Mais alors, dans cette situation, que doivent faire les justes qui ne peuvent pas empêcher que les Chaldéens viennent? Ils doivent vivre de foi. Or, mon juste vivra de foi. Voilà ce qu'il est dit. Alors, vous voyez qu'on est en pleine actualité. Il y a une menace sur le monde entier. Et cette menace, je ne vais pas la définir. Qui menace le monde? Il y en a qui vous diront, c'est les Américains. On est tout près. Il y en a qui vous diront, mais non, c'est les Russes. Oui, il y a une menace, hein, terrible. Une menace terrible sur le monde. On nous dit que en quelques instants, tout peut être bouleversé, on va vivre l'apocalypse. Même le pape dit que les cavaliers de l'apocalypse sont déjà là, hein, qui se présentent. Vous voyez, on revient même maintenant aux Écritures, même si on n'y a pas cru. Maintenant, on nous parle des cavaliers de l'Apocalypse, et c'est Jean-Paul II qui dit cela. Et c'est son grand message, les cavaliers sont prêts à venir avec tout ce qu'ils apportent. Hein. Vous connaissez ces cavaliers de l'Apocalypse, la famine, la guerre. La révolution, le sang, les larmes, la mort, la peste, tout cela menace le monde. Le Habacuc se trouve dans cette situation. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Il monte sur la tour, puis il doit regarder. Puis on lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, et il est dit un peu avant, cette vision concerne un temps déterminé, mais elle concerne aussi la fin. Elle a eu un accomplissement, cette prophétie partielle, du temps d'Habacuc, enfin tout près d'Habacuc, il y a eu l'invasion par les Chaldéens, par Babylone, mais c'est pas fini. Cette vision concerne la fin. Les choses qui sont écrites concernant la fin vont venir, et vous ne pouvez pas les empêcher. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Le juste vivra par la foi. Voilà ce qui nous est réservé. Dans ce temps-ci, nous devons savoir ce qu'est la foi et comment vivre de foi. Voilà l'introduction que j'avais à cœur de vous faire ce soir pour ouvrir cette retraite en demandant à Dieu que réellement nous puissions être déjà ce soir conscients que ce que nous allons entendre, ce que nous allons découvrir ensemble, est quelque chose de capital pour nous aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas si on arrivera à la fin de l'année. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais est-ce qu'on va être décontenancé? On va être prêt. Puis le Seigneur nous donne des enseignements. Comment on vit? Dans un temps comme celui-là, c'est vivre de foi. Et on va voir quels sont les caractères vraiment de cette foi. Seigneur, nous voulons te bénir de ce que tu ne nous laisses pas sans ressources en 1984. Mais nous voulons découvrir la vraie foi dont nous devrons vivre. Cette foi qui ne nous trompera pas. Qui est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas, cette foi qui pourra nous donner tout ce dont nous avons besoin. Cette foi qui va nous inspirer et nous montrer quelle est l'offrande que tu attends de nous, la vraie, celle qu'Abel avait apportée en s'apportant lui-même. L'œuvre que tu attends de nous,
comme Noé, qui ayant entendu ta parole, travaille d'une certaine manière pour le salut des siens. Et nous avons des bien-aimés que nous voudrions voir aussi sauvés. Et nous voulons te demander que toutes ces choses nous deviennent familières et que nous puissions vraiment entrer dans la vie de la foi. Non pas occasionnellement, mais que ça devienne notre vie. Dans tous les domaines, pour la gloire du Seigneur Jésus, pour notre bonheur et pour notre paix. Que tu nous donnes maintenant un moment de récréation avant ce sommeil que tu veux nous accorder, et tu nous dis que même dans la nuit, tu peux nous enseigner et nous préparer pour la journée de demain, afin qu'elle soit une journée de plénitude en ton amour. En Jésus. Amen.
Écoutons un texte de l'Écriture. Je me suis permis de l'écrire sur ce tableau. Il rentre dans ce grand thème qui est, comme vous le savez, les caractères de la vraie foi. Eh bien, dès ce matin, nous voudrions obéir à cet enseignement que vous trouvez dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Verset 22e, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ou selon une autre traduction, avec une foi entière, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Et pour répondre tout de suite à une question qui m'a été posée par deux personnes hier soir déjà, qui étaient préoccupées par ces passages, je continue en lisant verset 26e. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Que le Seigneur bénisse cette parole pour nos âmes, et que nous puissions recevoir ce matin une pleine assurance quant à notre salut. Il semble à première vue qu'il y a contradiction entre les deux textes que nous venons de vous lire. Tout d'abord, cette invitation de nous approcher avec une foi sincère, avec un cœur purifié par le sang du Seigneur, purifié d'une mauvaise conscience, puis le corps lavé d'eau pure, puis après il est question de ce péché volontaire. Que pouvons-nous comprendre? Eh bien, l'œuvre de
que le Seigneur a accompli pour nous à la croix est une œuvre parfaite. D'abord, par une seule offrande, il est dit qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et là où il y a offrande, l'offrande du Seigneur, il n'y a plus de péché. Donc, cette question du péché est définitivement réglée par quelle offrande ? L'offrande de Jésus faite une fois pour toutes. Mais ce sacrifice de Jésus, pour que nous soyons au bénéfice de ce salut qu'il nous apporte, il nous faut l'avoir reçu avec une foi sincère. Non pas avoir adhéré intellectuellement à cette vérité. Il faut l'avoir reçu où ? Dans notre intelligence ? Non, dans notre cœur. Dans notre cœur. Et croyant la parole de Dieu, nous savons avec une certitude absolue que nos péchés ont été expiés par le Seigneur Jésus, que le châtiment que méritaient nos péchés a été exécuté et que nous sommes libérés de la peine du péché. Il n'y a plus de châtiment pour le croyant. Sa conscience même est délivrée de ce sentiment de culpabilité. Jésus a été traité comme le coupable à la place des coupables. Le coupable a été jugé dans la personne de Jésus. Et cela s'est fait une fois pour toutes. Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Alors maintenant, la porte du salut nous est ouverte et nous avons à y entrer. À y entrer, mais d'une façon totale. L'homme tout entier y entre. Son esprit, son âme et son corps. Et alors comment se fait-il qu'après il soit question d'un péché volontaire ? Quel est ce péché volontaire ? Comment devons-nous comprendre ce texte ? Il n'est pas question ici de péché particulier, comprenez-le bien. Parce que depuis notre conversion, malgré notre conversion, qu'est-ce qui nous arrive ? On pêche, hein? Il nous arrive à tous de pécher, d'une manière ou d'une autre. Nous faillissons tous à plusieurs égards. Et on pourrait toujours dire que c'est, au fond, volontairement. De sorte que le péché volontaire, ici, il n'est pas défini. Mais ce péché volontaire, c'est avoir été éclairé sur les vérités du christianisme. Avoir reçu la connaissance du salut qui est en Jésus-Christ. Avoir marché, oui, un temps à la lumière de ces vérités, et puis, à un moment donné, rejeter tout cela. Le péché volontaire, c'est le rejet des vérités du christianisme. Le péché volontaire, c'est pas des péchés que nous pouvons encore commettre dans notre vie tant que nous sommes dans les corps de chair. Le péché volontaire, c'est le rejet des vérités qui nous ont peut-être réjouis pendant un temps. Nous avons marché à la lumière de ces choses et puis on a commencé à s'éloigner, on n'a plus le même amour, on s'est écarté de la communion des croyants, on n'a pas persévéré, puis on a pensé pendant un temps, mais ce qui compte, c'est que mon âme soit sauvée. Et on n'a pas réalisé que le salut, c'est pas seulement le salut de l'âme, c'est aussi le salut du corps. Et que c'est tout notre corps qui doit être livré au Seigneur. Et que dans notre vie quotidienne, nous devons avoir ce corps aussi lavé. Pas seulement la conscience purifiée par le sang du Seigneur, mais vivre en appliquant la parole du Seigneur sur notre vie tout entière. C'est ce que nous allons voir, c'est que les caractères de la foi qui sauve, c'est vraiment une vie de foi, où dans notre corps mortel, à chaque instant, nous appliquons la parole de Dieu. Et c'est cela qui est appelé le lavage d'eau par la parole de Dieu. Quand nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous avons voulu en témoigner aussi par notre corps. Comment ? En nous faisant baptiser. Le corps aussi a eu un témoignage. Nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans cette eau image de notre régénération par la parole de Dieu.